Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Un camp virtuel. Je prendrai la première image, donc s'il y en a qui veulent s'avancer pour voir un peu, gênez-vous pas, sinon vous allez voir là, autant que possible. Donc, on est dans notre série sur le livre des Proverbes et on y va sujet par sujet et le prochain sujet, celui qu'on va voir ce matin, c'est la communication. Et dans le livre des Proverbes, hein, sûrement que vous vous rappelez que la langue, la bouche, c'est beaucoup utilisé, là, les organes humains qui servent à la communication, on va les voir souvent. Et la sagesse qu'on veut voir dans le livre de Salomon, c'est cette capacité de mettre en pratique les enseignements de la parole de Dieu dans le but de mener une vie agréable et du même coup satisfaisante. Et un des aspects de l'art de vivre, c'est vraiment de savoir communiquer. Et même si les proverbes ont été écrits il y a 3000 ans déjà, on met ça en application, puis on dit le cœur de l'homme, lui, la nature humaine, au-delà des vêtements ou au-delà de la société, il est toujours le même et ces vérités-là sont toujours là. Soit savoir parler, savoir écouter, se faire comprendre. Notre façon de parler en dit beaucoup sur notre personnalité. Parfois, on voit les gens, hein, l'apparence aussi en dit un peu, puis avant de parler avec une personne, on voit son image, mais quand on commence à parler avec et qu'on a une conversation d'une demi-heure, on voit beaucoup la révélation de qui cette personne-là est vraiment. Parler, c'est vraiment, ça en dit beaucoup. De plus, la langue... L'outil majeur de la communication revêt une importance quand on considère l'impact qu'elle a dans la vie des gens. La langue possède une puissance de pénétration. Elle va directement au cœur. Elle touche notre être intérieur. Et en guise d'introduction, on va prendre la prochaine image qui nous parle de la puissance de la langue. Donc, je pense que vous voyez bien les versets. Je vais les lire rapidement. « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Une langue douce peut briser des os. Donc, juste un survol pour voir que la langue, là, c'est pas anodin. Hein? Je me souviens quand, je commence à être vieux, là, mais quand j'étais très jeune, des fois, les enfants, c'était dur, ou des adultes pouvaient être durs envers nous dire. Puis là, je me souviens que comme enfant, je disais, hey, ça n'a pas de bon sens, il m'a dit ça. Hein? Puis, qu'est-ce qu'on me disait à ce moment-là? Bah, laisse faire, c'est juste des paroles. Occupe-toi pas de ça. La langue ici, ça dit que ça peut blesser comme un glaive ou ça peut guérir, que c'est un arbre de vie, que ça a un impact puissant, ça a une puissance. C'est comme une bombe que tu fais exploser. Je vous propose ce matin six savoirs des savoirs liés à la communication. On commence avec le premier qui est savoir écouter, d'avoir une bonne oreille. Et on a juste un verset, mais il a du punch. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Quel grand besoin dans notre société d'aujourd'hui que d'écouter. Tout le monde veut parler. Tout le monde veut être entendu. Il veut se faire prendre sa place puis dire, hey, moi, je vais parler, on ne m'empêchera pas. Mais est-ce qu'on est prêt à écouter? Et savoir écouter, c'est tout un art à apprendre et à pratiquer. Et je l'ai déjà dit il y a quelques 6 mois, mais écouter, c'est un acte d'amour envers l'autre. Ça dit, je me soucie de toi, tu es important et je te donne du temps, je te donne de mon écoute, je réponds à ton besoin. Dans la vie de tous les jours, quand on est dans une situation, une discussion animée, ça parle d'un bord puis de l'autre. Hein? Il y en a un qui se dispute, puis là, il arrive qu'on se coupe. Là, ça ressemble un peu au débat des chefs. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Moi, je ne l'ai pas regardé parce que, justement, ça, c'est trop cacophonique, mais dans les reportages qu'on avait du débat des chefs pendant les élections, il disait, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde parle en même temps. Tout le monde se coupe. On a besoin d'apprendre à écouter, d'apprendre la courtoisie du langage. L'autre m'a écouté. J'ai pu dire mon point de vue, mon idée. Et là, maintenant, si j'aurais le goût de continuer ou il vient de dire quelque chose qui me provoque, j'ai le goût de répondre. Non, écoute, j'ai été écouté maintenant. C'est moi qui vais prendre le temps d'écouter. Je vais me retenir. Parfois, justement, on se retient, puis, j'ai parlé, mais là, c'était à l'autre, mais écoute, j'ai tellement de choses à dire, c'est tout là dans ma tête, je vais mettre un scotch tape, là, je vais attendre encore 15 secondes, 20 secondes, mais dans ce temps-là, on n'est pas en train d'écouter. Tout ce qu'on fait, on fait qu'attendre que l'autre aille terminer pour dire ce qui est dans notre bouche. Et aussitôt qu'il va avoir une petite seconde de libre, là, on va sauter, puis on va reprendre le crachoir, puis on va recommencer à parler. Dans ce temps-là, même si on a l'apparence d'une écoute, on n'est pas en train d'écouter. On ne cherche pas à comprendre. On a déjà notre réponse prête à riposter pour contre-attaquer et non pas pour échanger et dialoguer. Spécialement comme croyant entre frères et sœurs, je pense qu'on devrait faire preuve de prévenance réciproque, comme nous dit Romains 12. Comment? Juste prendre le temps d'écouter l'autre, d'essayer de comprendre, prendre le temps de réfléchir, puis de voir ce qui est dit. Ça ne veut pas dire que vous allez renoncer à votre idée puis que vous allez prendre l'idée de l'autre, mais juste le temps d'écouter, de dire la personne est importante. Quand on réalise que dans une discussion, c'est tendu, c'est irrité, qu'on n'écoute plus, c'est le temps de se calmer, de dire, hey, Richard, là, prends sur toi, calme-toi un peu, mets une pause. Je vais attendre qu'il y ait un silence avant de répondre. Quand on est avec une personne qui nous écoute et qu'on prend la peine de l'écouter, c'est merveilleux. Hein? On vit le fait de s'aimer, de prendre soin des uns des autres, ce que Jésus a pour nous dans l'Église. Donc, premier savoir, savoir écouter. Hein, quand on répond rapidement, on fait un acte de folie, on s'attire la confusion, on cause bien du trouble. Premier savoir, savoir écouter. Deuxième savoir, prochaine image, savoir réfléchir. Ça va un peu dans la même direction, mais on va plus sur le fait de, au lieu de se retenir une seconde avant de couper l'autre, là, puis là, on veut avoir une réflexion, on veut prendre le temps de comprendre, d'analyser, de penser un peu pour ramener. On voit les deux versets. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répond des méchancetés. Un homme irréfléchi dans ses paroles, hein? On a cette expression-là dans Proverbe 29-20, un homme qui parle sans réfléchir. Donc, souvent, des mauvaises paroles vont être dites. Ça va faire énormément de tort. Hein? Le méchant, il répond des méchancetés, sans retenue, sans méditer. Ça y vient à l'idée, ça a passé par son cœur, puis il garoche tout ça. Souvent, des mauvaises paroles vont être dites, ils vont faire énormément de tort parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir. Et combien de remords on pourrait s'éviter en prenant quelques instants de réflexion. Et bien des fois, tu sais, dans la société québécoise, on entend excuse-moi, j'ai dit des choses sans les penser, tu sais. C'est correct, tu ne le pensais pas. On comprend l'idée qui est dit et il y a un bel effort de vouloir s'excuser puis de revenir là-dessus. Mais la réalité, c'est qu'au moment où ces paroles-là ont été dites, qui sont sorties par la bouche, à cet instant-là, c'est ce qu'il pensait. Il n'y a pas eu un mélange dans le fil, dans les nerfs qui relient le cerveau à la bouche, puis il y a eu une fausse connexion, puis tout à coup, le canal n'a pas passé par la bonne place, puis hey, écoute-moi, il y a eu des fils là, qui se sont mélangés. Non, non, non. Au moment où tu le disais, c'est la pensée que tu as eue. Et pourquoi ne pas avoir juste gardé ça pour toi, penser, puis de dire, écoute, j'étais vraiment en colère, et heureusement, je ne l'ai pas dit parce que ce n'est pas ce que je veux communiquer. Et le but, la petite pensée qu'on a là, c'est de dire ce que tu penses et penser à ce que tu dis. Ah, je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi. Bien, c'est ça, il faut apprendre. Avoir cette retenue. Si tu sais que tu vas dire des énormités, ben mets un frein en ta bouche, pèse sur pause, puis de dire, on va réfléchir, on va attendre. On a besoin, même si ça paraît pas très bien, de dire à la personne, écoute, là, y a plein d'idées qui se passent dans ma tête, je te dirai pas lesquelles, et je vais prendre le temps de réfléchir. Peut-être que je vais prendre une journée. Peut-être que je vais aller prendre une marche puis je vais revenir dans 30 minutes. Ou peut-être que je vais prendre un petit 2 minutes, aller à la toilette, réfléchir parce que là, on a une réunion, il faut continuer. Prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de se calmer, de regrouper ses idées. Dans le ministère, une des choses que j'ai beaucoup appris dans les tensions, des réunions là, bouleversantes ou des réunions du conseil qui s'en viennent, c'est d'écrire pour regrouper mes idées. Quand on prend le temps d'écrire, ce qu'on fait, c'est on formule notre idée. On voit ce qu'on veut communiquer. Des fois, on arrête d'écrire et on dit, « Seigneur, si c'était juste de moi ou si je ne me retenais pas. » Mais en écrivant, on pense à ce qu'on veut vraiment dire. Puis, « Seigneur, c'est quoi que toi, tu veux que je pense? » Donc, on permet au Seigneur, par la réflexion, par le moyen de se donner une pause, on permet de dire les bonnes choses. On permet de dire des choses, de dire, « Seigneur, un an après, 10 ans après, je suis content de ce que j'ai dit à ce moment-là. » Donc, savoir réfléchir. Troisième savoir, prochaine image. Savoir se taire, et on a deux items à savoir se taire. Le premier, c'est ne pas trop parler. On a trois versets ici. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Deuxième verset. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Troisième, l'insensé. Hey, tellement beau ce petit verset-là, il m'a toujours frappé et il me frappe encore. L'insensé même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Donc, parler trop conduit à péché. Hein, le nombre de personnes, « Ah, tu me connais, tu sais comment je suis, moi, tu sais, je parle beaucoup, puis dans ça, je n'échappe que d'une. » Bien, justement, la parole de Dieu nous encourage à parler moins. Il existe plusieurs raisons au problème de trop parler. Dans certaines situations, on est nerveux, on est mal à l'aise et on voit qu'il y a des vides, il y a des moments de silence malaisant. Et là, je suis très bon pour ça, on parle comme pour remplir les vides et là, on parle. On veut éviter l'embarras d'un silence prolongé. Et parfois, il n'y a pas vraiment de malaise, c'est juste qu'il y a une pause. Hein? Un grand compositeur disait que c'est les plus belles notes qu'il mettait dans ses compositions, c'était quoi? C'était les pauses. C'était ça qui marquait puis qui donnait tout le caractère à son œuvre. Donc, nous aussi, qu'il y ait des pauses, c'est pas mauvais. Également, au niveau du langage, autant dans nos milieux chrétiens ou non, on peut être dominant dans une conversation. On prend trop de place. Parfois, on a des réunions de groupe, on est une dizaine de personnes, et il y a une personne que, si on chronométrait, elle va hypothéquer 70-80% du temps de discussion. Ça veut dire que cette personne-là, quand elle parle, c'est extrêmement important, il faut qu'on l'écoute, elle prend la place. Mais les autres qui sont là, au fur et à mesure que la réunion avance, de dire, écoute, pourquoi je suis là? Est-ce que mon opinion compte? Est-ce que moi aussi, je peux partager? C'est vraiment pas agréable. La sagesse, dans ce cadre-là, c'est de permettre aussi aux autres de parler, d'aider ceux qui parlent moins. Oui, on a besoin de se demander quelle est la raison pour laquelle des gens parlent moins. Parfois, on dira, la personne est gênée, elle a peur de s'exprimer, donc je ne la forcerai pas. Oui, ça peut être une des raisons. Mais peut-être aussi que la personne ne parle pas parce qu'on ne lui en donne pas l'occasion. Et que ça, ce manque de considération-là envers elle va faire en sorte qu'elle va se refermer davantage. Elle n'est pas dans un climat de confiance où on lui dit, écoute, tu es un membre du groupe à part entière. Tu comptes autant que les autres et on veut savoir, on veut t'entendre. Un des trucs pour ne pas trop parler, poser des questions. Hein? Jésus posait des questions constamment. Et on a besoin, nous aussi, comme croyants, de poser des questions. Poser des questions ouvertes. C'est quoi une question ouverte? Eh bien, une question fermée, ça se répond par oui ou non. Est-ce que tu as aimé ce qui t'est arrivé? Non, oui. Parfois même, on pose des questions fermées en disant, « Bien, écoute, es-tu content, là, oui ou non? » C'est pas une question qui prête à l'ouverture, c'est une question qui prête à mettre un terme à la discussion. Une bonne question ouverte, comment tu t'es senti dans ce que tu as vécu? Wow! Et là, il y a un silence, c'est pas grave. Tu peux compter jusqu'à 5 sans que ce soit grave. Et là, la personne, elle réfléchit. Puis là, elle décide si elle va risquer d'ouvrir son cœur, de mettre ses perles là, sur le terrain, d'ouvrir son cœur pour partager les trésors précieux, ses secrets. On veut également éviter de donner les réponses dans notre question. Penses-tu que cette personne-là a fait ça envers toi parce qu'elle t'en voulait ou parce qu'elle n'y a pas pensé? Un des deux. Non. Pourquoi tu penses que la personne a fait ça? On n'est pas obligé de... Parfois, on veut éviter les malaises, on donne les réponses et on n'est pas en train d'écouter. Donc, parfois, on a besoin de se taire. Moi, je sais que je suis une personne qui a besoin de me retenir. Des fois, je suis enthousiaste, un vrai sanguin, puis là, je réalise, je suis dans un groupe, puis depuis 10 minutes, là, j'en ai parlé 8. Fait, dans ce temps-là, tu sais, il n'y a rien de mal à s'exprimer, mais quand je le réalise, je dis, OK, c'est le temps d'écouter. Puis, si c'est moi qui anime ou tout, ben je vais donner la parole, je vais donner l'occasion aux gens. Savoir se taire, ne pas trop parler. Deuxième, la prochaine image. Savoir se taire dans le sens d'être discret. On a quelques versets ici. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. C'est-tu des beaux versets, ça? C'est incroyable. Prochain, 20-19. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas à celui qui ouvre ses lèvres. On a besoin, à un moment donné, de connaître notre monde, connaître... ceux avec qui on est en contact régulièrement. Et il y a des gens qui sont dignes de confiance et il y a des gens qu'on dit, « Non, cette personne-là a brisé ma confiance, c'est un bavard, il va aller dire ça à toutes sortes de gens puis de toutes sortes de façons, donc ce n'est pas à cette personne-là que je vais me confier. » 21-23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. » Supposons qu'une personne vous appelle et vous dit, « Je veux te parler de quelque chose. Hein? » Là, vous dites, « Aïe, 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 je me sens mal parce que je sais que j'ai parlé mal de cette personne-là. » Puis elle a dit qu'elle avait l'air d'être sérieuse, puis... ça avait l'air d'être important, puis elle n'était pas trop de bonne humeur. Et là, comment on se sent? On se sent mal, on se sent coupable. Hein? Le petit dicton dit « la mauvaise conscience a bonne mémoire ». on se souvient beaucoup des mauvaises paroles qu'on a dites à propos de quelqu'un. Puis là, cette personne-là de qui on parlait dit qu'elle veut nous voir. Quand on parle bien des gens, quand on évite de dire des mauvais propos à propos des gens, on n'a pas besoin de se souvenir d'absolument rien, puis on n'a pas à craindre. 25, 9 à 10. Défends ta cause contre ton prochain. C'est bon ça, il n'y a rien. Mais ne révèle pas le secret d'un autre. Parfois, pour se justifier et démontrer que ce n'est pas nous autres qui est coupable, on va dire, ouais, puis tu ne sais pas tout, tu sais. Je ne voulais pas te le dire, mais je vais te dire que cette personne-là est là. On dit des choses qu'on ne devrait pas dire juste pour se justifier. Et le verset continue en disant, « De peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface. » On a besoin de garder les confidences et les secrets. Une parole spécialement de calomnie ou quand on dévoile les secrets, quand on dit des choses qui ne devraient pas être dites, une parole comme ça, ça ne peut pas être reprise. Je me souviens mon bon ami Charles à Shawinigan qui me disait toujours, ces paroles comme ça, c'est comme la pâte à dents quand tu as pesé sur le tube et qu'elle est sortie. C'est bien dur de la faire rentrer. On a tous des souvenirs de paroles qu'on a prononcées et qu'on regrette. Hein? Ah, si j'avais pu me taire. Et on a besoin, on a le droit de faire des erreurs, on en fait tous. On a besoin d'avoir cette sagesse pour se taire quand c'est nécessaire. Donc, on veut développer cette discipline, cet art de la discrétion. Vous savez, avec les années, des fois, il y a des gens qui... J'ai l'occasion d'entendre des choses, puis j'ai développé ce réflexe. C'est pas que je veux pas t'écouter, mais je veux pas que tu me dises rien sur cette personne-là. Je n'ai pas besoin de savoir ça. Je te fais confiance. Parle-moi de toi, comment tu te sens dans ça, mais dis-moi pas ce que l'autre a fait, comment c'est terrible. On a besoin d'apprendre qu'il n'y a aucun gain, aucun avantage réel à parler de la vie secrète des gens et de dire ces choses-là à tout le monde. Et un bon test, si je viens pour dire des choses, si quelqu'un disait ça de ma femme que j'aime, de mes enfants que j'aime de tout mon cœur, bien, est-ce que je me réjouirais qu'ils disent ces choses-là, qu'ils dévoilent ces secrets, des choses de notre vie intime? Non, hein, je serais triste, je serais même fâché, déçu. Bien, je veux agir avec cette même prévenance pour ne pas dévoiler des secrets et dire des choses qui vont faire en sorte que ça va briser leur image et qu'ils vont avoir plus de difficultés à entrer en relation. Donc, savoir se taire dans le sens d'être discret, ne pas dévoiler des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Quatrième savoir, et là on veut être dans le positif, savoir bien parler. Les effets positifs des bonnes paroles. On a plusieurs petits versets, on va prendre le temps de les lire. La langue du juste est un argent de choix. Une réponse douce calme la fureur. Combien est agréable une parole dite à propos. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Hey, c'est ça qu'on veut, des bonnes paroles comme ça qui vont faire du bien à notre âme, à notre cœur, puis que même notre corps, ça lui fait du bien. 25, 11 et 12. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi, pour une oreille docile, est le sage qui réprimande. La langue a une puissance pour faire du bien. Je me souviens d'un professeur que j'avais à l'école biblique, un homme très, très occupé. Tout le monde était après lui. Mais quand il parlait avec toi, là, il t'écoutait. Il te donnait quelques petits encouragements, quelques bonnes paroles. Et tu sortais, là, puis tu flottais. Tu disais, écoute, je me serais attendu à ce qu'il n'y ait même pas le temps, là, 200, 300 personnes autour de lui qui prennent du temps pour moi. Puis ce que je voyais après ça, ce pasteur-là, je l'observais. Puis une des choses qui réjouissait encore plus mon cœur, c'est que ceux qui étaient un peu introvertis, ceux qui étaient retirés, ceux que il n'y avait pas beaucoup de monde pour parler avec, lui, il se faisait un plaisir d'aller directement vers ces personnes-là. Puis tu voyais qu'il écoutait, il souriait, il donnait des bonnes paroles. La puissance des paroles bienfaisantes qui édifient. On a besoin de pratiquer cet art et ce geste d'amour de dire des bonnes choses. Éphésiens 4, 29, qu'on connaît bien, hein, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, ça bâtit, ça construit la personne et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. On parle beaucoup dans la vie, hein? Parfois on parle pour pas dire grand-chose. On peut aussi parler pour faire du bien. Quelques conseils sur comment bien parler pour faire du bien. Premièrement, saluer les gens, dire bonjour, faire un sourire. Parfois, on ne peut pas faire plus que ça, mais ça envoie le message à la personne de dire, écoute, tu n'es pas un meuble ou tu n'es pas un chat ou un chien. Parfois, oh, le beau petit pitou, on s'occupe plus du chien que d'une personne humaine. Puis, je te rends compte, tu me connais. Je te connais, je ne ferai pas comme si tu n'étais pas là. Donc déjà, on est en train, juste par une salutation bienfaisante, un sourire qui accompagne ça, on est en train de faire du bien. Quand on peut, de s'informer, de s'intéresser, de poser des questions, de démontrer un intérêt, un souci envers la personne en s'informant. Ensuite, quand la personne nous confie quelque chose, on peut répondre, on peut faire du feedback, hein, du renforcement positif. On peut dire, je suis triste pour toi. Tu me partages ça, tu me fais confiance. Je veux te dire que ça me touche, je ne suis pas indifférent. Ça me touche. Ou encore, il t'est arrivé quelque chose de beau, bien, je suis content pour toi. Wow, t'as bien agi, puis t'as eu une bonne réponse, t'as vécu une belle expérience. Hey, je suis pas indifférent, ça me donne de la joie. On a besoin aussi d'encourager les gens. Une étude a dit que quelqu'un pouvait vivre jusqu'à 9 mois avec une parole d'encouragement qui est vraiment dite à propos qu'elle va revenir. Puis autant les mauvaises paroles puis les paroles blessantes reviennent puis ont un pouvoir de destruction, autant les bonnes paroles, un encouragement dit à propos, ça va rester. dire aux gens qu'on est content de les avoir rencontrés puis d'avoir parlé avec eux. Et c'est le but de Jésus dans l'Église, qu'on soit une communauté où on met de côté la peur et on remplace la peur par la joie. Je rencontre quelqu'un, j'ai de la joie à parler et la personne ressent ma joie puis elle a de la joie. Et c'est une ambiance, c'est une atmosphère qui se nourrit les uns avec les autres. Donc, encourager. Pour dire des bonnes paroles aussi, pour avoir des effets positifs, on a besoin d'avoir un filtre, d'éviter les petits commentaires blessants, durs, insensibles. Parfois, les gens nous disent des choses rapidement, puis on aurait le goût de leur dire, « Bien, écoute, je suis triste pour toi, mais il me semble que ce qui t'arrive, là, tu sais, t'as un peu cherché après, là, tu sais, tu t'es mis dans le trouble toi-même. Écoute, est-ce que ça va communiquer une grâce? Est-ce que ça va encourager? Non, on connaît pas la situation. On peut juste dire, en tout cas, c'est dur ce que tu vis, puis si tu veux m'en reparler, n'hésite pas à m'appeler ou envoie-moi un texto ou peu importe. Je veux être là pour toi, sans jugement. Savoir bien parler. Quand on parle avec les gens, est-ce que ça amène quelque chose dans leur vie? Le Seigneur nous appelle à faire ça par nos paroles. Cinquième, savoir. Savoir oser. On va le voir un petit peu plus rapidement parce que là, deux semaines, on l'a vu avec les relations d'amitié. Vaut mieux une réprimante ouverte qu'une amitié cachée. Donc, on a vu un peu, mais on va prendre le temps de lire les versets. Que parfois, dans l'art de la communication, parfois il faut oser. Parfois, il faut dire, écoute, je suis convaincu, Seigneur, je le fais avec les bonnes motivations, il peut en sortir du bien, mais je ne sais pas comment ça va être reçu. Proverbe 9, versets 8 à 9. « Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. » Donc, ça nous parle de reprendre celui qui est enseignable. Si tu as eu une couple de mauvaises expériences, juste à aborder des sujets, puis que tu te fais retourner de bord, bien, la parole de Dieu te dit, écoute, apprends de ça. Hein, Jésus a dit qu'on ne jette pas nos perles devant les pourceaux. Donc, tes conseils ou le sujet de ta réflexion que tu dis, écoute, je pense vraiment que je peux avoir un ministère, donne-le à celui qui va avoir un cœur pour le recevoir, pour le considérer. 28-23, celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur. Ensuite, hein, parce que sur le moment où on le dit, ça crée une tension. Trouve plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Si on vous trouve dans la même direction, oh, je suis d'accord avec toi, oh, tu as bien fait, ben oui, tu avais raison. Il n'y a pas un grand danger. Donc, c'est d'avoir le courage de dire la vérité quand ça en vaut vraiment la peine et quand on est certain de notre chose, là, même si ce n'est pas facile. Prochaine image. On arrive à notre sixième et dernier où on va avoir deux idées. Savoir se protéger. On a vu que les paroles peuvent être puissantes. On a vu qu'il y a un potentiel de destruction, de faire du mal. Et on a besoin de se protéger. Hein? Comme on voit dans l'image ici, là, on entend toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes nous confrontent, nous mettent dans des situations où on entend des paroles et on a besoin d'avoir un casque d'écoute, on a besoin d'avoir un filtre, on a besoin de savoir que je tire sur le fil parce que ça, je ne veux plus entendre ça. On a besoin de savoir comment réagir. Prochaine image, avec le verset 17:4. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Quel beau verset! Hein, peut-être vous dites, ah, Richard, il me semble que ça ne me dit pas grand-chose, ça. Veux-tu m'expliquer, là, la lèvre inique puis la langue pernicieuse? En gros, en bon québécois, c'est assez simple. C'est le méchant qui écoute le méchant. Donc, si je ne suis pas un méchant, je n'écouterai pas le méchant. Et parfois, on a besoin de se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai écouté une personne qui disait des mauvaises choses, des choses que je n'aurais jamais osé dire, mais je l'ai écouté, je n'ai pas réagi, et j'ai comme acquiescé, et cette personne-là s'en retourne en disant, « Ben, Richard, il était d'accord avec moi, il a dit la même chose que moi. » Toute une sagesse à avoir ici, tout un enseignement. Si une personne vient à vous, se montre sympathique, crée des liens, gagne votre confiance. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne chimie. Ça peut faire depuis une heure que vous parlez ou vous êtes vu plusieurs fois, sur plusieurs semaines. Et que tout à coup, il se met à parler mal d'une autre personne, à dire plein de mauvaises choses sur son compte, à dévoiler des secrets, à dire des choses qu'on ne peut même pas savoir, qui sont probablement fausses. Qu'allez-vous faire? Comment allez-vous réagir? Quoi répondre? Et là, parfois, ça nous arrive que on a figé, on a juste dit oui, puis on a quitté, puis après, on a besoin de réfléchir. On a besoin d'apprendre cette protection contre le méchant qui dit des mauvaises choses. On a besoin de ne pas écouter. Vous écoutez assez longtemps pour ne pas confondre. Là, vous pensez qu'il dit des méchantes choses, mais ça n'en est pas. Mais une fois que vous voyez, c'est clair, là, ça fait 15 minutes qu'il n'arrête pas. Là, on a besoin d'arrêter d'écouter, ne pas appuyer, ne pas encourager. Ne pas écouter sans répondre, sans réagir. Et vous savez, aussitôt que vous allez lever le petit doigt et dire une phrase qui dit je t'écoute depuis tantôt, puis je ne suis pas sûr que ce que tu dis de cette personne-là, que c'est bien. Il me semble que tu es en train de dire du mal. Vous n'avez pas besoin d'expliquer plus. Vous venez de péter la balloune, vous venez de créer un malaise, mais vous venez peut-être de gagner ce frère, cette sœur ou cette personne-là à arrêter de parler. Tu ne devrais pas critiquer cette personne-là de la sorte. C'est injuste. Parfois, dans la vie, on a besoin de le faire. Et quand on le fait envers une ou deux personnes, vous vous créez une réputation que ceux qui veulent mal parler, ce n'est pas vers vous qu'ils vont aller. Parce qu'ils vont savoir que vous ne serez pas en train de les appuyer, plutôt vous allez les reprendre. Prochaine image. Quelle est la réponse à ça dans Matthieu 18, 15? « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Ce qu'on peut dire à quelqu'un qui vient dire des mauvais propos, de dire « Écoute, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être dit, mais moi, je m'appelle Richard. Là, tu parles d'Ernest. Donc, va dire ces choses-là, mais va les dire à Ernest, pas à moi. Puis si moi, je ne t'écoute pas, va pas le dire à une autre personne. Parle à la bonne personne. C'est pas à moi que tu devrais dire ça si tu penses que ça a besoin d'être adressé. Parle à la bonne personne. On veut être sage, on veut faire la différence entre les situations. Hein. Parfois, on peut réagir de la mauvaise façon. On veut dire, écoute, tu dis des mauvais propos, puis on n'a pas pris le temps d'écouter, là. Mais ce qu'on veut éviter, c'est la médisance, c'est un esprit malsain, critique, c'est une perte de confiance qui s'établit dans un groupe parce qu'on se parle dans le dos les uns les autres. Et plus on est une belle petite famille spirituelle, plus on est une petite église, on a des liens avec les autres. Et si on se parle, si quelqu'un vient puis parle mal d'un autre, quand moi je vais parler, de dire « Écoute, c'est qui va parler mal de moi? » Parce que c'est la culture, c'est les valeurs qu'on a. Combien de crises et de divisions dans les églises ont été rendues possibles parce que des frères et des sœurs ont écouté et appuyé, malgré eux, en ne réagissant pas, des méchants propos. On est des gardes de sécurité pour chacune de nos assemblées, chacune de nos familles spirituelles. Quand c'est mal, on le dit, écoute, c'est pas de faire un grand drame, juste de lever la main, de dire une petite phrase et la personne va comprendre. Prochaine image. Le rapporteur, on aurait pu le voir un petit peu plus tôt là, dans le troisième savoir, mais on va mettre l'accent ici. 16:28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. 18:8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Hein? Vous savez, c'est bon. Hein? Le moment que ça passe, c'est doux, mais malin, quand il y en a trop dans l'estomac, là, ouh! Là on paye le prix puis pour le sucre puis pour notre santé. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. La parole de Dieu nous dit, fais attention à ce genre de bonbons-là. Attention de ne pas croire tout ce que les gens te disent qui crée des querelles. La différence avec le rapporteur, entre le rapporteur et la calomnie, c'est que le rapporteur, ce qu'il va dire la plupart du temps, c'est vrai que c'est arrivé, c'est vrai que la personne vit ça. Le problème, c'est qu'il va prendre un vilain plaisir de venir te dire les paroles ou de relater les actions d'une autre personne dans le but de quoi? De te blesser et de te faire réagir, juste pour mettre de la chicane, juste pour mettre le feu aux poudres. Et souvent, le rapporteur, il va prendre un petit bout de la phrase. Il ne prendra pas tout ce que la personne a dit de bien avant. Il va prendre le petit bout où il y avait un bémol. Puis après ça, il ne te dira pas tout le reste. C'est pris hors contexte et pas avec l'intention originale. Et je peux vous dire que j'ai appris comme pasteur dans le ministère à ne pas croire ces choses-là. Et même quand je savais que ça pouvait être vrai, puis que la personne, souvent, c'est des gens qui m'aimaient, qui voulaient mon bien, qui étaient vraiment avec moi. Puis, j'avais besoin de leur dire, écoute, arrête. Je sais que tu ne fais pas ça pour nuire à l'autre, puis que tu veux me prévenir, tu veux me protéger, mais ça ne m'aide pas. Quand tu vas savoir des choses comme ça, garde-les pour toi. Puis si tu penses que c'est mal, va voir la personne, mais sinon, viens pas me voir. On a besoin de protéger notre tête. On a besoin que quand on voit les frères et sœurs, quand on voit des gens du travail, qu'on puisse penser des bonnes choses. On n'a pas besoin des gens qui créent la suspicion, puis le doute, puis des relations vraiment négatives. À l'occasion, on dit des mauvaises paroles, puis on le regrette. Les autres aussi en disent contre nous. On a besoin d'apprendre à prendre ça avec un grain de sel. Donc, on ne veut pas mettre une trop grosse emphase. Quand les gens veulent nous rendre service, puis viennent vers nous, puis qu'ils nous disent des choses, bien, on ne veut pas les entendre. Ça ne crée pas l'édification. Si c'est des cas d'abus physiques, sexuels, s'il y a un prédateur dans la place, il y a un loup ravisseur, on ne dit pas non, non, non. On sait faire la différence entre les situations et ces cas-là sont très, très rares. Donc, on veut avoir la sagesse pour faire la différence des choses, mais c'est juste dans le cadre de la vie de l'Église, de la vie normale, que quelqu'un se plaît à venir nous relater une parole, une action. Non, on ne veut pas. On veut pas se mettre dans une situation où on a des doutes. Prochaine image. On va terminer avec celle-là. Quel beau verset. Quel beau verset que j'aime de tout mon cœur. Et quand on va dans Ecclésiaste, on sait que Salomon a écrit l'Ecclésiaste, puis donc on rentre ça dans la catégorie des proverbes. Non! Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Donc, ce que ça dit ici, c'est ne donne pas trop d'importance aux mauvaises paroles que les gens disent contre toi, de peur de te détruire. Hein? On réalise que de s'échapper, de dire hey, « je suis pas content, là, lui, il a pas fait ça, ou il a fait ça, puis ou il a parlé comme ça, puis ça y arrive souvent, puis là, c'est pas la première fois, puis... » Ça nous arrive tout, hein, que notre impatience déborde un peu. Donc, quand ça arrive aux autres qu'ils s'échappent un peu à notre égard, Salomon, dans sa sagesse, après avoir dit tout ce qu'il a écrit sur les mauvaises paroles, il dit, ah, regarde, prends donc ça avec un grain de sel et évite de te tourmenter inutilement. C'est déjà pas le fun de l'entendre puis de savoir que telle personne, oh, là, c'est toi qui l'entends, c'est toi qui le sais, là, c'est pas un autre qui se plaît à te rapporter. Regarde, ça fait déjà assez mal, grossis pas ça pour rien. Fais-en pas un drame, ne donne pas trop d'importance. Et dans le passage, hein, Salomon, il dit, sachant que toi aussi t'as déjà maudit les autres, toi aussi t'as déjà dit... Donc, quand ça arrive, on n'a pas de contrôle sur ce que les gens disent de nous. Donc, moi, j'ai appris à dire, Seigneur, regarde, je veux être troublé quand c'est moi qui dis des mauvaises paroles des autres. Là, je veux me mettre dans tous mes états parce que je veux être déçu. Je veux dire, Seigneur, hey, je ne veux pas parler comme ça, je me suis échappé. Donc, se soucier davantage de nos mauvaises paroles que nous l'ont dit, plutôt que celle d'une personne qu'on ne se serait pas attendue. Quel beau sujet, il y aurait tellement plus à dire, mais que le Seigneur nous donne sa grâce de bien parler. Que ce soit un sujet, un combat, un domaine de notre vie où on dit, je veux être au contrôle de ma bouche. Je veux que ma bouche serve l'Église de Jésus-Christ, soit la gloire de Dieu. De la façon que vous parlez, de la façon que vous écoutez, de la façon que vous répondez aux gens, définit en grande partie quelle sorte de personne vous êtes. Donc, Dieu nous donne la grâce, que Dieu nous donne l'humilité de reconnaître nos manquements, de voir là où on a besoin de grandir, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à bien répondre. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, oui, on veut te remercier pour ta parole, pour cette sagesse d'il y a plus de 3000 ans, où, Seigneur, tu nous parles encore. Seigneur Jésus, on veut premièrement te confesser, moi le premier, que bien des fois dans nos vies, on pêche encore. On va à l'encontre de ta sagesse par nos propos. Seigneur, sanctifie notre bouche, sanctifie notre langue. On veut mettre nos membres à ton service, Jésus, puis on veut mettre notre bouche à ton service. On veut que notre bouche édifie ton Église. On veut que communiquer de l'amour par nos paroles. On veut que les gens se sentent encouragés, bénis d'avoir parlé avec nous, d'avoir été écoutés par nous. Seigneur Jésus, mets ces versets-là, mets ces enseignements dans notre cœur et au bon moment, Seigneur, par ton Saint-Esprit, rappelle-nous-les afin qu'on puisse les mettre en pratique. À toi la gloire, Jésus. Amen.